BFM Radio.
Et dans l'affaire suivante, rebonjour Dominique.
Rebonjour François.
On s'intéresse pour commencer à ce que l'on appelle un cold case, une affaire non résolue en français, comme il y en a un certain nombre en France actuellement, dont celle du violeur d'Antibes. Il n'a ni nom, ni visage, et surtout il court toujours. Entre 1994 et 2006, il s'en est pris à au moins 16 femmes en région parisienne, dans le sud de la France, avec un mode opératoire qui n'a jamais varié, ou presque, et un ADN, son ADN, systématiquement retrouvé. Bonjour Sylvaine.
Bonjour.
Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Bienvenue à toutes les deux. Vous avez toutes les deux été agressées par cet homme. Au début des années 2000, vous allez nous raconter dans un instant ce qui vous est arrivé. À vos côtés, votre avocat Didier Seban. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour maître. Vous êtes l'avocat de Sylvaine et de Sylvie. Vous représentez dans ce dossier au total 5 victimes. Soyez le bienvenu. Général François Daoust, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre de Recherche de la Gendarmerie Nationale, ancien directeur de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. À vos côtés, Jean Arca, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Progrès et à Marianne. Vous êtes le premier à avoir mis en lumière, mis au jour cette affaire, ce dossier qui en 2024 a donc été rouvert par les juges du pôle Cold Case de Nanterre. Bienvenue à tous les 5. On va regarder deux images, de photos, de visages, pour commencer, si vous le voulez bien. Ce sont les vôtres, Sylvaine, Sylvie. Les vôtres, il y a 20 ans, on les voit à l'antenne. À une époque où votre vie s'apprête à basculer, vous ne le savez pas encore, à ce moment-là, et 20 ans après, vous êtes ici. Quand vous revoyez ces photos, vous, notamment Sylvaine, qui à l'époque est maquilleuse dans la mode.
C'est ça.
Que vous dites-vous ?
Ben, des destins qu'on ne soupçonne pas, qui vont être soudainement chamboulés. Il y a une vie avant et il y a une vie après. Et ce genre d'événement vous stigmatise à vie.
C'est votre état d'esprit à vous aussi, Sylvie ?
Tout à fait.
Il y a une vie avant, il y a une vie après. Ouais. Avant, le avant, après. Bien sûr, vous faites référence à l'agression, au viol même, dont vous avez été victime, vous, Sylvaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce soir de canicule du 12 juillet 2003? Vous habitez alors à Aix-en-Provence.
C'est ça. Je rentrais de Paris, puisque maquilleuse, je venais de faire le défilé Givenchy. Le lendemain, je fais un shooting photo pour le Figaro magazine. Je rentre à mon domicile. Jusque-là, ma routine étant exactement la même, je vais me coucher. Et alors que je suis profondément endormie, je sens une masse mais qui me saute dessus. J'ai un sursaut mais de torpeur, et cette torpeur d'ailleurs qui ne me quitte plus, parce que c'est un souvenir de panique totale à un moment où vous êtes le plus vulnérable, c'est-à-dire pendant votre sommeil. Cette masse m'immobilise dans mon lit, me menace d'un couteau, et là vous branchez pas parce que vous avez peur de mourir. C'est automatiquement ce qui vous vient à l'esprit, et le mec qui vous dit « ne bouge pas, je viens te voler », et rapidement je comprends qu'il est là pour me violer, et je me laisse attacher, les mains derrière le dos, il me bande les yeux avec un scotch bien spécifique dont on parlera, il me met une espèce de cagoule en tissu sur la tête, et rapidement je lui demande qu'il m'enlève cette cagoule parce que j'arrive pas à respirer, et là je suis prise de panique. Et alors qu'il commence à se déshabiller et à commencer à avec des gestes intrusifs, etc., je le vois un petit peu sur ma gauche, et donc il me retourne, et comme je suis sur le dos, j'ai le scotch qui se décolle un petit peu, et c'est là qu'avec les lumières de fond, vous savez, des appareils électriques, des appartements, je distingue une silhouette, je distingue un toc. Il repousse ses lunettes métalliques avec le centre, ils sont très très forts, ils dégagent une odeur mais abominable, ils puent clairement, et il attaque un mode opératoire qui est vraiment sa signature, c'est-à-dire un cunnilingus suivi d'un doigtage vaginal, et pour le coup c'est entre 4h et 4h30 du matin. Et il part soudainement, il se rhabille, il quitte les lieux et il part en courant. Et c'est là où j'ai pu, moi, le suivre vite par mon balcon et noter qu'il a une cicatrice sur la tête, puisqu'il est coupé très très court, hein, les cheveux à la Prison Break, de type caucasien, iseuzote, puisque j'échange avec lui. Et j'essaye de savoir qui il est, d'où il me connaît. C'est là que je comprends qu'il m'a suivi, qu'il est capable de décrire des vêtements que je porte, donc dans ma voiture, etc. Il est pas là par hasard. Il est monté au premier étage de mon appartement. Il a grimpé sur ma poubelle. On découvre plus tard qu'il a sectionner les fils électriques.
Quand vous dites j'échange avec lui, qu'est-ce que vous lui dites ? Qu'est-ce que vous lui dites ? C'est lui qui vous parle ?
Comment ça ? Non, c'est moi. C'est moi. J'essaye de l'amadouer. J'essaye de savoir qui il est, d'où il vient.
Et il répond.
Il répond, mais brièvement. Il entame pas plus que ça la conversation. Il me dit surtout tais-toi. Alors je parle encore plus parce que je sens que ça le désarme. Il n'arrive pas à érecter. Il a un problème sexuel hein, à ce niveau-là. De toute façon, c'est pas ça qu'il vient chercher. Il vient instaurer la torpeur et le contrôle. Quand on fait ce genre de choses comme ça en pleine nuit et en attendant que vous dormiez.
Sylvie, le récit de Sylvaine à vos côtés fait écho à au moins une partie de ce que vous-même avez aussi vécu un an plus tard. Vous êtes alors chez vous à Antibes.
À Antibes, dans une résidence très sécurisée. J'habite un rez-de-jardin avec mon fils. Mon fils est chez son papa parce qu'on n'est plus ensemble. Et moi, c'est un petit peu différent. Effectivement, été 2004, la veille de l'anniversaire de mon fils, je suis chez moi, tout est ouvert. J'ai un petit chien qui a un comportement assez bizarre, mais sans pour ça aboyer. Et puis, je converse sur MSN à l'époque, c'était tout nouveau, avec des amis sur Paris. Et donc, j'ai un déroulé très précis de ce nuit-là, grâce à cet échange. À minuit et demi, je ferme mes volets. En plus, je plaisante en disant que si un cambrioleur, c'est pas bien grave, il y aura les cacas de chien pour le stopper. Et je continue à converser, je vais me faire un café, je reviens. Et à 5h du matin, donc là, je vous parle, il est minuit et demi, quand je ferme mes volets, 5h du matin, mes plombs sautent, chose qui ne m'avait jamais trop perturbée parce que on commençait à avoir pas mal d'outils technologiques dont les plombs sautaient régulièrement. J'avais quand même un petit laptop, donc j'avais la lumière de ce laptop et je dis à mon ami, mes plombs sautaient, je reviens tout de suite. Et au moment où je me dirige vers ma porte d'entrée, donc où mon tableau électrique, une grosse masse se jette sur moi, m'attrape au cou, me met à terre et met son genou sur mon estomac et commence à me taper. C'est-à-dire que là, je sens qu'il n'est pas là pour me violer, il est là pour me faire beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui est très en colère, qui a une odeur, comme Sylvaine disait, qui est moi, j'aimais à dire de sac de rugby de mon fils oublié dans mon coffre, parce que c'était une immondice. Et il m'a tapé pendant 3 minutes 40 sur tout mon côté droit. Donc, j'ai estimé qu'il était gaucher. Cela va de soi. Et grâce à ma bague et à mon esprit un petit peu fort, j'ai réussi à me débattre, à le taper. Du coup, il s'est dégagé et il a continué à me taper debout. Et puis, quand il a vu que je cédais pas, il est parti.
Ce qui est intéressant, Dominique, dans ces deux récits, c'est, et on peut en parler avec vous, Jean Arcas, parce que vous êtes, on le rappelle, journaliste, et vous êtes l'un des premiers à vous être intéressé à ce dossier, à l'avoir mis au jour, à l'avoir mis sous la lumière des projecteurs médiatiques. C'est le mode opératoire, d'abord.
Oui.
Les points communs et dans les récits de nos deux victimes, notamment ici même, et le mode opératoire de cet homme qui court toujours plus de 20 ans après, n'est-ce pas ?
Oui, on peut constater qu'il a un mode opératoire qui est très très défini. Il vient toujours avec une cagoule. Il a toujours du gros scotch type chantier qu'il utilise pour bander les yeux de ses victimes. Il rentre, il s'introduit la nuit dans l'appartement, donc soit en rez-de-jardin, soit en passant par les balcons. Il y a quand même une victime dans les garages aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une partie de repérage. Parce que pour savoir que ce sont des femmes célibataires, qu'elles sont seules chez elles, il y a un mode opératoire très précis. Il ne s'attaque pas à des victimes en pleine rue. Donc ce qu'ils commettent, ce ne sont pas des crimes d'opportunité. C'est sûr qu'il y a une partie repérage avant, qui sait pourquoi il vient, il sait ce qu'il vient faire. Il y a aussi cette odeur qui est récurrente chez les victimes. Par contre, malheureusement, il y a beaucoup de victimes qui n'ont pas pu voir son visage. Sylvaine est une des rares à avoir pu voir son visage, ce qui forcément a compliqué un peu les investigations.
Ça, c'est la similitude entre vos deux agressions, l'odeur du type, il agit la nuit, il a repéré, il a prémédité, il a coupé le courant, c'est sans doute lui.
ça.
C'est ça?
Tout à fait.
Donc, à l'époque, comment est-ce qu'on fait le lien? C'est le SALVAC, le système d'assistance en lien des victimes d'agressions criminelles, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Comment ça marche, ça?
Eh bien, c'est-à-dire que pour chaque enquête et chaque fait est rentré dans ce logiciel, eh bien, tout ce qui est constitue la matérialité des faits. Le profil des victimes, le physique, l'âge, où elles étaient, est-ce qu'elles vivaient seules avec quelqu'un au leur, etc., etc. La façon de procéder, donc le modus operandi. Le logiciel rapproche des faits et dit, là, nous sommes face à une série. Donc, c'est un violeur sériel.
Je précise, parenthèse, que puisqu'on parle de violeur en série, d'agresseur en série, que dans la résidence dans laquelle vous habitiez au moment des faits, Sylvie, il y a eu au total
trois
agressions. Il a sévi à trois reprises. Vous, en 2004, puis 2005, puis 2006.
Et dans ce profil de l'agresseur-violeur, on s'aperçoit qu'il repère les lieux, il rentre dans les appartements et il les connaît. C'est-à-dire qu'il a dû venir au moins largement avant ses victimes, voire se cacher. Pour certains cas, il s'est caché pendant plusieurs heures pour attendre que la victime s'endorme, etc. Donc, le repérage des lieux était là aussi. On voit quelqu'un de méthodique. Après, avec tous les travers psychologiques que vous avez donnés, d'agressivité, de frustration, d'impuissance, qui vient rajouter de la violence. Et là, le SALVAC, eh bien, il sort en disant « mais il y a quelque chose ». Et dans cette enquête, en revanche, il y a des cas qui n'étaient pas rentrés dans le SALVAC. Ce sont les cas à Châtenay-Malabry, en 94 jusqu'à 96 en région parisienne, où il n'y avait pas l'ADN et les scellés ont été conservés, mais ils n'étaient pas rentrés. Ce n'est qu'en 2010 que ça sera retrouvé et étudié.
Jean Arca, je crois.
Pour retracer un peu la chronologie, l'enquête, elle démarre véritablement dans le sud en 2005 à Antibes. Ouais. C'est pour ça que l'affaire s'appelle le violeur d'Antibes au niveau police. C'est un an après l'agression de Sylvie au Flavia. L'agresseur revient, commet une agression au Flavia et une agression dans une autre résidence. Et à ce moment-là, on récupère l'ADN et c'est avec cet ADN commun que les policiers commence à sortir les scellés de toutes les affaires similaires, de récupérer les ADN. Et là, on se rend compte en 2005 qu'il en est déjà presque à 10 viols en région PACA, donc dans civil, donc dans trois départements, hein, Var, Alpes-Maritimes.
Et Ensuite, dans ma résidence,
et
d'ailleurs, en 2001,
Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence.
Dans ma résidence aussi. Hein. Moi, c'était en 2003.
Restez avec nous. On va se quitter quelques tout petits instants, une courte publicité. On revient ensuite pour parler de la suite de l'enquête avec vous, notamment Maître Seban qui représentait Sylvie, Sylvaine et au total 5 victimes du violeur d'Antibes. Parler de l'enquête, parler d'un appel à témoignage et parler aussi de la généalogie génétique qui pourrait éventuellement permettre de faire avancer cette enquête vieille de 30 ans au départ. C'est le violeur d'Antibes qui court toujours. À tout de suite dans l'affaire suivante.
BFM Radio.
h 30, vous regardez Affaire suivante, la suite, soyez les bienvenus ici, vous nous rejoignez, on s'intéresse à ce cold case, le violeur d'Antibes qui n'a ni nom ni visage, qui court toujours, 30 ans après les premiers faits, entre 94 et 2006, il s'en est pris à au moins 16 femmes, dont 2 sont ici présentes aujourd'hui, rebienvenue Sylvaine et Sylvie. Le mode opératoire n'a jamais varié, l'ADN, son ADN, l'ADN de cet homme a été systématiquement retrouvé. Intéressons-nous à cet élément pour revenir sur cette affaire. Général Daouze, vous êtes l'ancien patron de l'IRCGN, l'ADN de cet homme, on l'a, mais il ne matche pas, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'est dans aucun fichier aujourd'hui.
Voilà, il n'est pas dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, qui est celui qui a tous les condamnés qui sont passés ou les mises en cause. Donc ça veut dire qu'il n'a jamais été attrapé comme primo-délinquant dans une affaire quelconque, ce qui fait qu'on ne l'a pas. En revanche, la partie trace de ce fichier a permis de, lorsqu'on a remis les scellés au laboratoire pour analyse, et je parle là des scellés de Châtenay-Malabry des trois viols, ça a été injecté dès le FNAEG, toujours pas d'identification. En revanche, ça a matché avec toutes les affaires du sud de la France qui ont montré que c'était le même violeur.
Le FNAEG, c'est le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
Donc, c'est comme ça qu'on a regroupé. On sait qu'il était en région parisienne jusqu'à la fin des années 90 et qu'après, il était dans le sud de la France. Mais on n'a pas pu le faire avant parce que le FNAEG n'a été créé qu'en 1998. C'est pour ça que ces affaires sont passées aussi sous le radar.
C'est une affaire parmi d'autres. Hein. Il y a d'autres affaires qui ont vu leur cours basculer grâce ou à cause de l'ADN. Dominique, juste, Maître Semant est avec nous. Il est l'avocat de Sylvaine et Sylvie. Et alors, hors antenne, vous nous disiez l'importance d'évoquer le regroupement des affaires. Parce qu'on est 30 ans après les premiers faits. Il n'a plus agi, en tout cas, officiellement, si je puis dire, depuis 20 ans, cet homme, qui n'a jamais été retrouvé. Comment ça se passe aujourd'hui, du point de vue de l'enquête ou des enquêtes? Le Paul Colquhès a repris le dossier l'année dernière.
C'est la chance de voir en France ce Paul Colquhès qui est unique en Europe, qui se dévoue aux affaires non élucidées, qui les regroupe et qui recherche la sérialité. Vous savez, la difficulté souvent, c'est que ces affaires sont suivies par des gendarmeries, des polices, des juges différents. Et puis, disons-le, à l'époque, les affaires de viol, c'est un peu traité à minima. Les dossiers, la proximité, l'enquête de proximité, ce qu'on a pu voir, les gardiens, les voisins, ce qui a pu être marqué, c'est quelques feuillets. Donc, on repart d'une enquête au départ très très brève, sans relier les dossiers, avec une masse d'informations à constituer. Vous savez, par exemple, on a cette idée que ça pourrait être quelqu'un qui travaille dans le bâtiment ou qui intervient, un ascensoriste ou un agent immobilier, pour connaître aussi bien les résidences et pour y passer du temps. Mais il faut coordonner les informations, interroger les syndics, interroger... Et tout ça, 15 ans après ou 20 ans après, c'est difficile. Mais je suis convaincu qu'on va y arriver parce qu'il y a cet ADN qui est quand même un atout phénoménal aujourd'hui dans le dossier, qui nous permet d'écarter des pistes ou d'en retenir. Et on est convaincu qu'avec le travail qui est mené, l'engagement, je crois que c'est l'OCRVP, l'Office central de recherche sur les violences aux personnes, qui est chargé de cette affaire, je crois, j'en suis sûr, et qui en fait une de ses priorités. Mais encore faut-il aussi qu'on évolue sur la génétique.
Quand on parle du Paul Colquhès, vous êtes quand même un peu à l'origine, avec Jacques Dallès, avec quelques autres, vous, votre criminel, cabinet Seban, qui a la réputation de rien lâcher, de l'installation de ce pôle, en tout cas de la création de ce pôle. Est-ce que vous avez tout un tas de dossiers comme celui-ci, les disparus de Lyon, les disparus de Lassis, Émile-Louis Fourniret, est-ce que vous comptez uniquement sur la gendarmerie, la police, ou est-ce que vous, de votre côté, vous avez des avocats spécialisés qui vont aller au pôle Colquhès, faire des suggestions, ou alors des enquêteurs privés, vous avez le droit de le faire. Est-ce que vous travaillez en plus des services de police, de gendarmerie, sur des dossiers comme celui-ci?
Alors, on a un ancien gendarme qu'on a recruté, un gars qui a travaillé à l'OCRVP et à Diane, dans les deux services centraux.
Diane,
la gendarmerie de... Diane, c'est le service central de la gendarmerie, d'enquête sur ces affaires-là, et qui reprend les dossiers. Et on a une intervention active, c'est-à-dire qu'on va, d'abord on reçoit longuement les personnes, les victimes, pour savoir si un détail, un point pourrait être intéressant, parce que dans leur témoignage, il y a évidemment peut-être des choses qui ont échappé aux premiers enquêteurs.
Ça aurait peut-être dû être fait avant.
Ça aurait dû être fait avant, évidemment. Et puis deuxièmement, on fait ce travail, on a fait une dizaine de pages de demande au pôle en disant il y a des vérifications à faire, allez par exemple consulter toutes les mains courantes à Châtenay-Malabry, pour savoir si à Châtenay-Malabry, qui est le point de départ, il n'aurait pas été interpellé une fois.
Mais alors, ce qui est intéressant, pardonnez-moi, je vous coupe, parce que précisément, je rebondis sur ce que vous nous disiez hors antenne, Sylvaine. Il y a quelques mois, au Paul Colquhès, vous vous êtes retrouvé face à un profiler.
Oui, j'ai été interrogée, ce qu'ils appellent un interrogatoire cognitif, et qui permet de vous mettre dans un état d'hypnose, hein, d'auto-hypnose, pour essayer de faire ressurgir des souvenirs camouflés, parce qu'on appelle l'amnésie traumatique, hein, et ça nous est arrivé. Moi, par exemple, je me rappelais plus du couteau. C'était des choses qui m'avaient mais complètement échappé. Et quand on me pose la question, mais pourquoi vous vous êtes laissé attacher? Je sais pas. Donc, effectivement, le but étant de faire ressurgir parce que ce qu'ils cherchent, c'est les dénominateurs communs. Et comme le dit Maître, effectivement, ce qui est dommageable, c'est qu'on n'ait pas été réunis sous forme de brainstorming entre victimes, comme ça a été le cas pour d'autres affaires, entre autres, on parlait de l'affaire Casio, par exemple, où bah, on peut échanger, et c'est là où il y a des dominateurs communs qui peuvent surgir, parce que c'est ce que le pôle de Nanterre cherche activement.
Il y a des choses qui vous sont revenues quand on vous a hypnotisé ?
Des sensations, des impressions, des comme je vous disais, pourquoi il était là. Vous créez un espèce de lien assez bizarre. Votre corps se détache. Vous détachez de votre corps déjà. C'est un mécanisme de défense hein, qu'on a tous en nous. Mm-hmm. Et donc vous êtes partisan de la scène, mais sans la subir, vous dégagez. Et c'est ça qu'il a vraiment essayé de travailler, par exemple avec moi, pour essayer d'avoir des indices sur justement la description hein, du personnage et c'est sa motivation ce qui le pousse à être là.
En fait, ce qu'on constate aussi, c'est que donc c'est un violeur qui a opéré dans des villes assez espacées, mais qui à l'intérieur de ces villes a opéré dans des zones assez restreintes.
Oui.
Ce qui fait que en fait les victimes sur ces villes-là, elles avaient tendance à fréquenter les mêmes lieux, la même salle de sport, la même salle de danse ou le même salon de coiffure. Et ce qui peut faire qu'en fait, elles ont...
Ça fait d'autant plus froid dans le dos. Ça, oui, ça renforce la conviction d'un vrai repérage.
Exactement, d'un vrai rôdeur. Mais ouais. Ça veut aussi dire qu'elles l'ont peut-être croisé, qu'elles l'ont peut-être aperçu. Et qu'en discutant entre elles, elles peuvent se, voilà, établir des liens, tirer des fils qui auraient pu permettre de l'identifier.
Mais alors justement, sur la question de qui est cet homme et aussi pourquoi n'a-t-il, en tout cas officiellement, plus agi depuis 2006 depuis quasiment 20 ans. Vous avez vous émettez une hypothèse, Sylvie.
Pour moi, il a pas arrêté. Il s'est juste protégé. Il s'est mis en protection. Il s'est mis en sécurité.
Suite à quoi ?
Suite à cet article qu'il y a eu en 2006 sur le Nice Matin concernant ma résidence et la troisième victime, où le journaliste a fait le point et a mis le doigt sur un ADN concordant avec d'autres affaires. Et bizarrement, depuis, on n'en a plus jamais entendu parler. Mais nous sommes cinq, les cinq défendus par le cabinet Seban. On s'est fait un petit groupe WhatsApp entre nous. On se parle entre nous. On essaie d'établir des liens. On essaie aussi de se...
Vous avez monté un collectif.
Oui, c'est ça.
Sylvaine,
c'est ça.
Les voix des balcons. C'est quoi ça, un appel à témoignage ? C'est une façon d'enquêter à votre niveau, à votre manière ? C'est quoi ?
Se donner la voix, déjà, c'est très important parce qu'on a été tenu au silence pendant des années. Cette affaire a été méconnue. Donc, pouvoir prendre la parole, c'est déjà important en tant que victime. Effectivement, récolter des témoignages, et c'est le cas en plus, on en récolte aujourd'hui. On a des personnes qui se manifestent en message privé.
Mais Maître, est-ce qu'un homme comme lui, ça peut s'arrêter ? Vous avez déjà vu ça dans vos dossiers en 2006 ? D'un seul coup, il arrêterait ?
Non.
Sauf à ce qu'il soit mort ou pas en prison parce qu'on aurait son ADN.
On l'a vu dans le Grêlet, par exemple. Hein, le cas du Grêlet, en tout cas, on pense. C'est la même chose pour lui. On parle de 16 affaires, mais est-ce qu'il y a des affaires où il n'y a pas eu d'ADN ? Est-ce qu'il y a des affaires qui n'ont pas été reliées ? Est-ce qu'il y a des affaires ailleurs ? Ces appels à témoignages, ça peut permettre. On en a reçu d'ailleurs depuis deux. Un cas qui nous disent moi ça m'est arrivé à tel endroit, moi tel voisin s'est comporté comme ça, donc faire remonter, je suis sûr qu'il n'y en a pas que 16. Maintenant, est-ce que ça s'est vraiment arrêté à ce moment-là ? C'est possible, quelquefois pour des raisons familiales, pour des raisons parce qu'il a retrouvé un nouvel équilibre, parce qu'il a peur, parce qu'il a déménagé,
à l'étranger, ouais.
Ça s'arrête, ça ne veut pas dire qu'il est mort ou qu'il est emprisonné, mais peut-être. Voilà, c'est possible et on l'a déjà rencontré dans l'histoire criminelle.
Vous êtes favorable à l'utilisation pour que ça avance et que ça avance vraiment, qu'on retrouve cette personne, cet homme en clair, à l'utilisation d'une technique. Et on va s'arrêter là-dessus. Quelques minutes pour terminer. La généalogie génétique.
Une
technique interdite en France.
Alors oui, c'est interdit par la loi. Hein, c'est les articles 16, 10 et suivants du Code civil qui l'interdisent. C'est la loi bioéthique qui fait que pour faire de l'ADN, il faut que ça soit médical, que ça soit recherche scientifique ou que ça soit judiciaire. Donc on ne peut pas, à titre récréatif, donner son ADN pour voir d'où proviendrait notre famille. Alors qu'aux USA, On a parfaitement le droit. Et il y a une généalogiste généticienne, Sissy Moore, qui a dit, mais après tout, on peut s'en servir aussi au regard du chromosome X et du chromosome Y, pour faire simple, et de l'ADN mitochondrial, à remonter comme ça des lignées familiales et du cousinage jusqu'à là, cousin au sixième degré, ce qui va très très loin. Et à partir de 2018, un certain nombre d'affaires aux USA ont été résolues.
Ce procédé a déjà été utilisé en France. Succès, notamment dans l'affaire dite du prédateur des bois.
Tout à fait. Mais indirectement. C'est-à-dire que les forces de l'ordre demandent au FBI s'ils ont des bases ou en tout cas peuvent leur approcher, et le FBI, lui, va aller dans les bases privées, qui sont ces bases de généalogie, pour essayer de retrouver des concordances.
Donc c'est simple, on prend l'ADN qu'on a de votre agresseur violeur, la police française l'envoie à la police américaine, au FBI. Ouais. Le FBI demande aux banques privées qui nous informent sur nos origines.
Oui, à toutes celles et ceux qui cherchent à connaître leur parenté. Oui.
On peut avoir aussi un portrait robot génétique.
Oui, ça c'est encore
je vais vous dire, on s'est mis en colère dans l'affaire Dumont, qui est une petite fille qui a été assassinée, mais aussi dans
Sabine Dumont,
parce que ça faisait 2 ans qu'on nous disait, après l'affaire du prédateur des bois, on va saisir. Et les obstacles administratifs de savoir quel service pouvait payer, comment on pouvait faire, empêcher que ça soit mis en place. On s'est mis en colère. Ça a débloqué 5 dossiers, mais pas encore celui des prédateurs des bois. Ouais. On est sur le... Pas encore celui d'Antibes. On est sur le point de le faire. Donc, on va le faire. Et on nous dit, ça y est, c'est parti, c'est sur le point de partir, c'est plus qu'un problème de papier, et ainsi de suite. Mais ces dames attendent. Cet homme agit peut-être encore. Il commet peut-être encore des faits sans laisser son ADN. Donc, il y a urgence. Et il y a urgence à ce que cette technique soit mise en œuvre et qu'on puisse dire c'est lui qui soit jugé, qui soit condamné, et que peut-être les victimes que je représente puissent réouvrir la fenêtre, dire il va pas arriver.
Parce que et on va terminer par là, parce que Sylvain et Sylvie, vous souhaitiez parler aussi aujourd'hui des séquelles 20 ans après. Vous voulez pouvoir tourner la page un jour, pour l'instant c'est pas possible. 20 ans après, quelles sont ces séquelles ?
Moi, en ce qui me concerne, après l'agression, j'ai enchaîné les anorexies sans m'en apercevoir vraiment, parce que je menais une belle carrière professionnelle sur Sophia Antipolis. J'ai élevé mon fils du mieux que je pouvais, mais mon corps parlait, jusqu'à ce que je reçoive la lettre du Paul Colquès de Nanterre pour me signaler que j'étais une victime, alors que il y a 20 ans, on m'a certifié que je ne l'étais pas, parce que je n'ai pas été violée, parce que je me suis défendue malgré tout. Il m'a même, j'ai quand même eu un ébranlement cérébral. J'ai perdu la vision de l'œil droit pendant des années. Mais depuis l'ouverture de ce dossier, mon système digestif et mon estomac s'est complètement arrêté. J'ai fini, là je suis en gastrostomie, c'est-à-dire que je suis nourrie la nuit. Je suis reliée à une pompe qui me nourrit la nuit avec un tuyau et un trou dans le ventre. Et ce que je trouve dommage, c'est que les instances de la CIVI ne veulent pas reconnaître nos stigmates, ne veulent pas reconnaître que s'il y a eu un non-lieu, nous le non-lieu, on l'aura pas.
Sylvain, c'est pour vous la même chose. Vous ne pourrez tourner la page que si cet homme est...
Oui, j'ai très envie qu'on mette un nom sur son visage au niveau de... On est quand même un pays qui est fort de justice. Enfin, c'est des choses qui nous tiennent à cœur, et qui, d'un pays, on est fort de ça. Donc, moi, j'estime que peu importe le parti aujourd'hui, ça fait partie de nos priorités. La sécurité, la justice, c'est commun à tous. Moi, j'avais ma vie avant, j'avais une carrière devant moi j'étais vraiment promise à pouvoir faire de belles choses. Une dépression qui vous accapare, de l'insomnie, vous êtes, très honnêtement, pas vraiment au courant de comment les recours que vous avez aussi, parce que la police nous a pas vraiment accompagné avec ça. Donc bon, voilà. Et puis il faut se réinventer, il faut déménager, parce que bien évidemment c'est chez soi que ça se passe. Il faut se réinventer, se reconstruire au niveau professionnel, et puis faire face aux insomnies, faire face aux migraines. Enfin, moi personnellement, j'ai un terrain où j'introvertis beaucoup. J'ai l'air très pétillante comme ça à l'extérieur. Moi, j'introvertis beaucoup. Donc c'est des migraines, du bruxisme, des dents qui arrêtent pas de se casser, qu'on me refait, et puis le spectre professionnel, et puis les stigmates sexuels. Je veux dire, à un moment donné, faut aussi en parler. Je veux dire, ça c'est toute une reconstruction, et c'est tout un apprentissage nouveau qui font qu'on a toutes des vies qui sont chaotiques et qui le seront à vie.
Merci. Merci, franchement, merci d'avoir trouvé la force de venir témoigner dans Affaires Suivantes aujourd'hui. Merci à tous les cinq d'avoir accepté notre invitation. Dominique, il est temps de passer à la deuxième partie d'Affaires Suivantes. Nous sommes, trois semaines et demie après la tragédie de Cromontana. Le propriétaire français du Constellation, Jacques Moretti, mis en cause pour négligence, est sorti de prison vendredi soir. Un cap dans l'affaire, dans l'enquête, après 15 jours de détention. Une décision de la justice suisse qui scandalise les familles de victimes. Le récit de Pierre-Louis Bousset.
Jacques Moretti aura passé 14 jours en détention avant d'être remis en liberté. Décision insupportable pour les familles de victimes.
C'est un scandale qu'il soit libre, parce qu'il a toujours la possibilité de s'enfuir et de produire de faux documents d'identité.
La dernière étape d'une instruction contre laquelle des parties civiles et leurs avocats se sont montrés très critiques, notamment en pointant un risque de collusion entre les époux et propriétaires du bar Le Constellation, qui aurait pu avoir le temps de faire disparaître des preuves juste après l'incendie.
Pour une raison que les avocats des parties civiles n'expliquent pas, il n'y a pas eu de saisie de leur téléphone portable. Jacques et Jessica Moretti auraient pu éventuellement s'accorder sur une seule et même version. Ces téléphones portables, ils ont été saisis 4 jours plus tard, soit le 9 janvier dernier.
Les familles dénoncent également le peu d'autopsies réalisées après le drame et redoutent de devoir exhumer les corps de leurs proches pour les besoins de l'instruction.
Aujourd'hui, vu la colère des gens, il n'est pas possible de laisser les choses persister et prospérer ainsi. C'est pas possible. C'est humainement. C'est tout simplement, écoutez bien chaque mot que je vous dis, humainement, insupportable.
L'absence à ce jour de poursuite contre la commune de Cromontana scandalise également les plaignants. La ville, censée inspecter le bar tous les ans, n'avait pas contrôlé le Constellation depuis 2020.
Bonjour Maxime Ronstetter.
Bonjour.
Journaliste police justice de BFM TV. Vous revenez tout juste de Suisse, où vous suivez de près cette enquête 3 semaines et demie après la tragédie de Cromontana. Le général Daoust est toujours avec nous, ancien directeur de l'IRCGN, directeur du Centre de Recherche de la Gendarmerie Nationale, et Johanna Rosenblum. Bonjour Johanna.
Bonjour François.
Vous êtes psychologue, clinicienne et consultante de BFM TV. Bienvenue à tous les trois. Maxime, vous revenez de Suisse où la libération aussi prévu que redouté, notamment par les familles des victimes, est donc intervenu avant-hier soir. Et c'est un petit coup de tonnerre quand même, voire un tremblement de terre en Suisse.
Oui, c'est vrai que vous soulignez le paradoxe, c'est que tout le monde l'attendait. Tous les avocats ont sûrement préparé leurs clients en disant que ça allait arriver. Et c'est pas pour cela que quand il est sorti, personne n'a été choqué, voire secoué. Nous, on était devant la prison le jour où il a été libéré, parce qu'on espérait pouvoir l'apercevoir. Il est parti sans qu'on le voie, sans doute par une porte dérobée. Il y a plusieurs portes de la prison, donc sans doute par une porte dérobée. Et dès qu'on a appris sa libération, on a commencé à l'annoncer sur BFM TV. On a vu, évidemment, plein de journalistes suisses arriver, mais on a vu aussi beaucoup de curieux, d'habitants de Sion, la ville où il était en prison, arriver pour voir, alors c'est vrai, il est sorti, etc. Oui. Des habitants qui étaient tous aussi passablement énervés du fait qu'il sorte, même s'il n'avait rien à voir avec l'affaire. Donc, bref, c'est un événement qui a secoué à la fois les familles de victimes, mais je pense tout le canton du Valais au moins.
Mais la dimension psychologique, elle est capitale là, Johanna. Certaines familles disent en substance, mais je meurs une deuxième fois.
C'est exactement ça.
En voyant celui que je considère, attention, comme l'assassin d'une certaine manière de mon fils, de ma fille, être libéré alors qu'il a quelque part du sang sur les mains, qu'il est mis en cause pour négligence, psychologiquement, c'est quasi insoutenable.
Merci de le souligner, de le dire aussi justement, François, parce que la justice peut-être légalement, enfin, elle est légalement très juste.
Elle applique le droit.
On est dans un état de droit, il y a des règles, il y a des lois, elles sont appliquées, mais humainement extrêmement violentes. Et j'ai toujours des frissons quand j'entends des victimes ou des familles de victimes qui témoignent du désarroi, de leur colère, de l'effondrement que cela représente de voir une personne qui, sous caution, peut être libérée et le soir aller donner à manger à ses enfants quand soi-même on a perdu son enfant brûlé vif. Et des avocats répondent, mais la justice fait son travail froidement. Il faut bien comprendre que la justice et les victimes ne parlent pas la même langue. Et oui, savoir qu'un potentiel responsable, même s'il est toujours présumé innocent, va pouvoir dormir chez lui, retrouver sa famille quand soi-même on vient d'enterrer son enfant qu'on a à peine pu reconnaître brûlé vif, c'est juste insoutenable.
Dominique.
Non, c'est très compliqué pour nous de commenter.
C'est très complexe.
Max était sur place, Maxime était sur place. Moi, j'étais en plateau, on était ensemble hein, d'ailleurs. Et nous, on peut parler que de justice. Si on parle de justice, si on fait des commentaires. Johanna peut parler de psychologie, de souffrance de la famille.
Mais non, pas du tout. Tu peux parler de justice en disant que la justice, elle respecte les règles d'un état de droit, mais qu'elle est d'une violence insoutenable.
Absolument.
Pour des...
Ça, c'est vrai.
Et c'est, il faut pouvoir le rajouter à chaque fois, même les avocats.
Johanna, la justice, elle dit, bon, c'est pas un assassinat. Monsieur Moretti n'a assassiné personne. Assassiner, c'est prémédité. Ça n'est pas un meurtre. Il n'a tué personne. Et la justice a des termes pour dire ça. On parle au maximum... Pardon pour ce maximum, mais d'homicide involontaire. En France, on dirait ça. Là-bas, c'est
maximum. Homicide par négligence. 4 ans et demi de prison maximum.
4 ans et demi de prison maximum, ça sera jamais assez pour les.
Sachant victimes. Que certaines peines peuvent s'additionner.
Mais la justice, elle doit poser un terme juridique sur. La justice, elle doit poser un terme juridique. Donc, et le fait que M. Moretti sorte de prison, la justice suisse en a décidé ainsi. Parce qu'elle a décidé qu'il n'y aurait plus, maintenant qu'il n'y avait plus de risque de fuite, de collusion. Donc, mais on comprend que pour les victimes, ce soit insupportable. Mais la justice fonctionne comme ça.
La justice fonctionne. L'enquête agit, en tout cas. Et l'enquête se poursuit. Certaines la dénoncent, notamment du côté des familles de victimes. Mais elle suit son cours. Elle avance assez rapidement. Vous avez révélé cette semaine, Maxime, vous et le service police-justice de BFM TV, de nouvelles images, de nouvelles vidéos. Du moment où le bar s'embrase. Et tout va très vite, alors même que la soirée se passe, et au départ en tout cas, mais pendant de longues minutes, personne ne semble s'apercevoir de rien.
Oui, c'est cette vidéo. Alors, on avait déjà vu des vidéos du bar qui s'embrasait à l'intérieur, parce que tout le monde, beaucoup de personnes filmaient à ce moment-là. Mais cette vidéo, elle est un petit peu particulière, parce que elle est particulière par le début. Vous voyez cette colonne de personnes qui tiennent des bouteilles avec des bougies de Bengale. Pourquoi je dis que c'est particulier? Parce qu'en fait, cette colonne de personnes qui amènent ces bouteilles, en fait, c'est les salariés, c'est les serveurs, c'est aussi Jessica Moretti, qui, ce soir-là, on l'a lu dans des auditions auxquelles on a eu accès, avait leur plus gros envoi de bouteilles par le plus gros groupe de la soirée à ce moment-là. Ce gros groupe avait commandé une douzaine de bouteilles et à ce moment-là, ils rassemblent tout le monde, tous les salariés, ils disent, bah là, c'est maintenant, ils veulent leur douzaine de bouteilles, on a un show prévu, on met Jessica Moretti, dit, allez mettre les masques, vous voyez Sian Panin qui est sur les épaules de quelqu'un, ils ont tous des masques, ils allument les bougies et ils partent en colonne comme ça le long du bar, vous les voyez, et ils vont aller à droite, ils vont aller plus loin déposer ces bouteilles. Et quand le jeune homme qui fort heureusement est indemne, panote, il se rend compte que le feu a déjà pris.
Quand il
tourne la caméra, on voit que le feu a pris finalement au départ de leur cortège. Et pourquoi c'est extrêmement important? On a consulté l'audition d'une serveuse qui s'appelle Louise, qui aussi est indemne mais extrêmement traumatisée. Et elle dit, on a mis 30-35 secondes à se rendre compte que le feu avait pris. À ce moment-là, c'était trop tard. Elle le dit, j'ai pensé à passer derrière le bar, aller barman, prendre un seau d'eau et le jeter. C'était trop tard, c'était immaîtrisable. Et donc, ces 30-35 secondes, ce moment où tous les salariés du bar ne s'en rendent pas compte et qu'on voit aussi les jeunes autour qui, on les comprend, sont un peu stupéfaits et ne réagissent pas, ces 30-35 secondes qui auraient pu peut-être éviter le drame.
On est en direct avec Marc-Antoine, Dominique. Bonjour Marc-Antoine, merci d'être avec nous. Vous avez 14 ans et j'imagine que les images qui sont diffusées en ce moment à l'antenne font écho à ce que vous avez vécu, ou vous renvoient à ce que vous avez vécu le soir du Nouvel An. Vous n'étiez pas aux Constellations, vous étiez juste en face. Et alors vous êtes venu en aide à des victimes de la tragédie, vous et votre grande sœur aussi, puisqu'elle est étudiante en médecine. Elle a eu un comportement héroïque ce soir-là, elle a prodigué les premiers soins aux victimes. C'est la première fois, Marc-Antoine, que vous prenez la parole à la télévision française. Merci d'être avec nous dans l'affaire suivante. Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé et comment, quels souvenirs vous gardez de cette soirée horrible?
Alors, en fait, je me trouvais à Crans-Montana, sur la place centrale, en train de fêter le Nouvel An avec mes amis. C'était un nouvel an joyeux. On fêtait comme on fête tous les nouvel ans. Et vers à peu près 1h du matin, le DJ annonce la fête est prolongée jusqu'à 1h15. Je pense qu'il a sauvé beaucoup de vies. Et parce que les gens souvent font la balançoire entre Allo Constellation d'abord, ensuite aller sur la place centrale pour minuit pile, et ensuite reviennent aux Constellations. Et moi, avec mon groupe d'amis, on décide de se diriger. Moi, j'étais censé rentrer chez moi pour 1h30, mais on se dit qu'on allait passer devant la Constellation. J'aurais peut-être appelé mes parents pour demander de rester un peu plus longtemps, 2h du matin peut-être, et puis de m'amuser un peu plus. Et lorsque j'arrive devant la Constellation, je vois un ami de mon cousin. Je discute avec l'ami de mon cousin. Et d'un coup, tout va très vite. Le vigile sort et dit de s'écarter des escaliers. Et puis ensuite, il part. Il part, je pense, pour aller aider les victimes. Et là, on voit une foule de personnes arriver, ouvrir la porte avec des cris de panique, des hurlements. Et des gens s'entassaient sur l'entrée. C'est à ce moment-là que, avec mon ami Nicolas, on ne réfléchit pas. Moi, j'étais avec des béquilles, parce que je suis blessé à la cheville. Mais à ce moment-là, je pose mes béquilles. Je pars rapidement pour aller aider les victimes. Avec l'aide de 5 personnes à peu près, on réussit à ouvrir la fenêtre. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à sortir le maximum de corps qu'on pouvait, sans se rendre compte du danger que nous aussi on encourait avec la fumée toxique qu'il y avait. Pour savoir, en fait, c'était juste impossible d'aller plus loin que la fenêtre, parce que la fumée était juste irrespirable. Donc on sortait le maximum de victimes qu'on pouvait. Certaines s'écroulaient lorsqu'on les sortait. Et c'est là que le bar 1900, qui se trouve en face du Constellation, a eu vraiment cette initiative forte de nous dire de ramener tous ces boules blessées jusqu'à leur bar. Donc, on faisait vraiment cette navette entre ça. Puis après à peu près 5 minutes, je pense qu'on avait sorti beaucoup de victimes, les pompiers, les policiers en train de boucler le secteur. C'était notre moment d'évacuer parce que nous, on ne pouvait plus rien faire et c'était vraiment aux pompiers d'agir.
Ce feu que vous voyez, Marc-Antoine, vous le voyez depuis l'extérieur, depuis la place, il est passé du sous-sol du Constellation à l'étage. Est-ce que vous avez le souvenir de voir des flammes progressives, même si c'est assez rapide, ou est-ce que c'est un embrasement général d'un seul coup?
Je pense que c'est un embrasement général. Nous, on n'a pas vu les flammes arriver. Je pense que c'est le vigile qui s'est posé une question, qui s'est dit « mais pourquoi il y a beaucoup de gens qui montent comme ça ?» Et là, il s'est rendu compte. Mais en fait, c'est vraiment ce... Moi, j'ai pas vraiment de souvenir. Pas de bruit d'explosion, rien. Mais vraiment ce souffle de feu qui sort des vitres et puis qui prend vraiment tout ça. Et c'est, en fait, c'est une confusion. Lorsque j'aidais déjà les gens, je me rendais pas compte de ce qui s'était passé. Pour moi, j'aidais juste, je voyais des gens brûler, mais je ne me rendais pas compte de ce qui s'était passé.
3 semaines après, Marc-Antoine, comment vous avez vu la description de l'horreur à laquelle vous avez assisté?
Pour moi, c'est un chaos. Il n'y a pas d'autre définition, pas d'autre mot, et personne, je pense, ne sait comment il aurait réagi pour des personnes qui n'ont pas vécu ce drame. C'est pour ça qu'on ne peut pas critiquer des personnes qui n'ont pas aidé et même les jeunes à l'intérieur du Constellation qui le feu s'est propagé tellement rapidement, tellement... C'est une scène de chaos avec mélangée à des cris, des hurlements, des pleurs, de la détresse, beaucoup de détresse dans les regards aussi des personnes qu'on aidait. Quand certaines personnes, l'autre nous regardait dans les yeux pour me dire « aide-moi moi » en fait et... Et en fait, c'est vraiment beaucoup de détresse et c'était un cauchemar.
Merci Marc-Antoine. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour témoigner en direct sur BFM TV dans la verse suivante. Il faut aussi qu'on aborde un point, Dominique, 3 semaines et demie après la tragédie, parce que c'est l'objet même d'une polémique en Suisse, en Italie aussi. On sera avec un journaliste italien dans quelques toutes petites secondes. C'est la polémique autour, Maxime, des autopsies ou de l'absence d'autopsie d'un certain nombre de corps de victimes depuis l'incendie du Nouvel An.
L'absence, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a presque pas eu d'autopsie. Ouais. D'après nos informations, alors au 14 janvier, mes informations s'arrêtent là, au 14 janvier, sur les 40 victimes, il n'y avait eu que deux autopsies qui ont été ordonnées par la justice suisse. Et encore, ces autopsies, elles ont été ordonnées à la demande de la famille via leurs avocats. Ouais. Et les deux ont été ordonnées le 13 janvier. Pour l'anecdote, les deux enfants étaient enterrés le 14 janvier.
Deux citoyens italiens, français,
deux Suisses.
Deux Suisses.
Deux Suisses qui étaient enterrés le 14 janvier. La famille demandait à ce qu'ils soient autopsiés avant d'être enterrés. Ça a été validé le 13 janvier. On ne sait pas pourquoi le ministère public, la justice suisse, considère qu'il n'y a pas besoin de faire d'autopsie, ce qui scandalise forcément beaucoup de personnes et inquiète beaucoup d'avocats de partie civile qui connaissent un petit peu l'affaire parce qu'ils se disent là aujourd'hui les familles elles ne vont pas bien, elles sont effondrées, mais peut-être qu'un jour elles auront besoin de savoir qu'est-ce qui est arrivé à leur enfant.
Pourquoi est-ce que ces autopsies elles sont indispensables?
Alors il y a les catastrophes,
même si on est sûr tout à que fait. Le corps qu'on a sous les yeux, eh bien celui de X.
Là, je pense qu'on est face à un phénomène qui a été celui, il est arrivé une catastrophe et un incendie majeur. Donc, le ministère public a dit, on sait de quoi ils sont morts, c'est à cause de l'incendie. Alors que nous ne sommes pas dans un crash d'avion, nous ne sommes pas dans un accident ferroviaire, etc. Là, la nécessité, c'est de savoir, un, où étaient les corps qui ont été retrouvés. Où est-ce qu'ils étaient placés? Est-ce qu'ils étaient contre les petites sorties de secours qui étaient fermées ou obstruées? Est-ce qu'ils étaient près du bar ou ailleurs? Et ça permet de savoir pour chaque victime de quoi elle est réellement morte. Est-ce qu'elle a été morte écrasée par la foule qui se pressait? Est-ce qu'elle est morte des fumées? Ça, on le saura dans les poumons. Si les poumons sont roses, c'est que la personne était morte avant.
Mais c'est essentiel pour les familles.
Mais c'est essentiel.
Essentiel pour les familles.
Mais c'est essentiel pour l'enquête.
Oui, aussi.
C'est-à-dire que la scène de la scène de crime, parce qu'on peut pas appeler ça autrement, c'est une scène d'infraction. Eh bien, ça permet de resituer toutes les victimes dans les lieux et de savoir, selon le lieu, de quoi exactement elles sont mortes. Et ça, ils ont été focalisés sur l'identification.
Ouais.
Et je pense qu'ils ont oublié ce volet-là, qui était celui de l'instruction.
On peut en parler aussi avec Francesco Leone. Bonjour, vous êtes journaliste italien. Bonjour. De l'émission Fuori dal Coro sur Mediaset. Vous revenez, vous aussi, de Grand Montana. Et alors, cette polémique autour de l'absence d'autopsie suscite énormément d'émotions chez vous en Italie. 6 des victimes de Grand Montana sont italiennes. Et alors, entre le défunt italien exhumé, des victimes dont les corps ont été examinés très tardivement ou pas du tout, tout cela interroge énormément à Grand Montana d'où vous revenez et en Italie où vous habitez.
Et oui, mais je crois que c'est nécessaire ce qu'il a dit, monsieur, sur l'autopsie. Et ce que je peux dire après avoir travaillé comme journaliste, après les enquêtes journalistiques que nous avons menées avec Fuori dal Coro, c'est qu'il est évident que les questions sur cette affaire sont nombreuses. Et des autopsies ont été pratiquées ici à Milan, en Italie, y compris sur des victimes toutefois italiennes, et parfois après les funérailles de ces jeunes. Et donc, il s'agit d'examens fondamentaux pour établir la vérité, les responsabilités, des examens qui peuvent apporter une réponse supplémentaire sur le déroulement de la tragédie et qui, je pense, seront également utiles dans le cadre de la procédure judiciaire. Et, bien sûr, d'après ce que nous lisons chaque jour dans les journaux sur la tragédie de Grand Montana, d'après les interviews que nous avons réalisées, il ressort qu'il existe une certaine perplexité. Quant à la manière dont les autopsies ont été menées dans le cadre de l'enquête des magistrats valaisans, nous avons lu que certains avocats ont vivement critiqué la manière dont certains examens ont été menés, examens qui auraient pu être effectués en Suisse et en temps utile. Et plusieurs polémiques ont émergé autour de cette affaire, notamment celle concernant les retards, oui, bien sûr, la manière dont une partie de l'enquête a été menée, les contrôles qui ne sont pas effectués sur les constellations, et nous verrons si les informations supplémentaires seront communiquées dans les prochaines semaines. Il est clair qu'une polémique a éclaté.
Merci Francesco Leone, merci d'être intervenu dans l'affaire suivante. Évidemment, on continue à suivre de près l'enquête sur la tragédie de Grand Montana, qui, je le rappelle, a fait 40 morts et 116 blessés. Oui. Le bilan est absolument terrible.
Bien sûr, merci. Ça nous rappelle les pires heures de l'histoire en France. On se souvient du 5-7, on pensait que tout ça n'existerait plus jamais.
Merci à tous les quatre. Merci d'être intervenus dans l'affaire suivante.
Maxime,
pour terminer,
là-bas.
Plus de 14 heures.
Et c'est un peu de temps, mais sûrement.
On vous propose à présent un voyage en quelque sorte. Un voyage au cœur d'un endroit aussi mythique que discret, avec ceux qui l'ont dirigé. Alors, on a beaucoup de chance aujourd'hui dans l'affaire suivante, Dominique. Le 36 Quai des Orfèvres, sur les quais de l'île de la Cité à Paris, dans l'une des ailes de l'ancien palais de justice, le siège de la PJ, le siège de la police judiciaire de Paris pendant plus d'un siècle. Bonjour Claude Cancès. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Affaires suivantes. Vous êtes l'ancien patron de la PJ parisienne. Au milieu des années 90, vous avez été le boss du 36. Bonjour Charles Diaz. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien de la police. Vous avez été inspecteur de la PJ. Vous êtes aujourd'hui commissaire général honoraire de la police nationale. On vous doit, hop, je vais sortir le bouquin. Tu l'as à côté de toi, Dominique, oui, parce que j'ai des bouteilles d'eau qui sont dessus. Voilà. C'est du direct. Mais bon, en même temps, c'est à l'antenne. Le 36.
La couverture est dure, on peut plaisanter là-dessus.
L'histoire des 36 illustrés, qui a des orfèvres, racontée par son ancien patron. En réalité, on a de la chance. On n'a pas un, mais deux anciens patrons du 36, parce que Christian Flèche est également avec nous. Bonjour, Christian. On avait très envie que vous soyez là. Vous aussi aujourd'hui, parce que vous avez aussi dirigé le 36 Quai des Orfèvres de 2007 à 2013. Vous avez débuté même, je crois, hein, votre carrière à la PJ parisienne. Je disais tout à l'heure, trois grands flics se mettent à table. Enfin, presque quatre, hein, Dominique, en non. réalité.
J'aurais bien aimé être flic, tiens.
Un petit tour de table pour commencer, parce qu'on a tous envie de savoir. D'abord, quel est votre souvenir le plus marquant au 36, au moment où vous le dirigiez ou pas, d'ailleurs? Qu'est-ce que...
C'est une question qui est souvent posée.
Bah oui, j'imagine.
Alors, il y a un très mauvais souvenir. Vous savez, lorsqu'on exerce ce boulot de flic, on est avant tout homme avant d'être flic et on sait qu'on prend des risques, que nos collaborateurs en prennent aussi. Et lorsqu'on a un collègue au tapis, 31 juillet 78, fusillade à l'ambassade d'Irak, Jacques Capellan. J'étais jeune commissaire à la crime, lui était inspecteur. Il était de congé ce jour-là, il rentrait de vacances au 1er août. Et il y a eu une prise d'otage, il est venu, et il y a eu une fusillade à la fin de la prise d'otage. Il en est mort, il est mort.
Vous lui rendez hommage livre, hein, plusieurs pages avec des photos, beaucoup de photos d'archives.
On ne peut pas oublier que mes collègues n'ont pas oublié, même si ils n'étaient pas là.
Même les plus jeunes.
Et puis alors, oui. Et puis alors, une affaire qui m'a beaucoup marqué, mais dans... vraiment un bon souvenir, c'est la prise d'otage Human Bomb à Neuilly en 93.
Bon souvenir parce que l'affaire Schmitt se termine bien. Fort heureusement, après deux jours durant lesquels on a cru que Human Bomb allait faire sauter la salle de classe avec à l'intérieur tous ces enfants qui s'y
On a eu l'épée de Damoclès pendant 40 heures. Mmh. On savait qu'il avait avec lui. Les techniciens du laboratoire central nous avaient indiqué que il avait amené de l'explosif, il pouvait faire
sauter. Eric
Schmitt, voilà. Voilà. Human Bomb, il s'appelait.
La salle était truffée d'explosifs. Hein.
Alors, il y avait un décalage entre son comportement vis-à-vis des gosses. On a senti tout de suite que, contrairement à ce qu'il avait écrit dans ses documents qu'il nous avait amenés, qu'il voulait faire des prises de sang aux gosses, enfin, c'était affreux. Mais on a bien compris qu'il ne voulait pas faire du mal aux gosses. Par contre, à tout moment, il pouvait appuyer sur le détonateur et faire sauter la classe. On est passé à deux doigts de la catastrophe.
Et il a fini par être intercepté.
Il a été.
Oui. Tout s'est bien terminé, si je puis dire. C'est pour ça que vous parlez d'un bon souvenir, oui. Charles Diaz. Quel souvenir très fort retenez-vous de votre histoire du 36?
Notre arrivée rue des Rosiers en août 1900.
L'attentat de la rue des Rosiers.
Voilà. Donc Claude était le chef de la brigade criminelle par intérim. Et nous sommes arrivés là-bas, il y a des morts partout.
Vous avez l'air encore marqué.
Oui, parce que c'est des souvenirs hier, qui vous marquent, quoi. Ouais, c'est pas si simple que ça. Et puis après, l'enquête qui a suivi, qui était plutôt compliquée, avec des ramifications internationales rapidement.
Qui n'est pas terminée, puisque l'un des auteurs est encore en prison. Et...
Oui.
C'est en France.
Oui.
Et si on flèche.
Alors, nous, quand j'étais directeur, on a rendu hommage à Jacques Capellan, puisque on a peu de constructions neuves dans les vieux bâtiments du Quai des Orfèvres, mais il y a eu un jour, on a créé une salle de crise, on avait eu de l'argent, on a créé quelque chose qui avait un peu de tête, de gueule, et on a décidé de la baptiser du nom de Jacques Capellan, et donc il y a eu une petite cérémonie avec la famille, de façon à pouvoir officiellement dire que la salle de crise du Quai des Orfèvres s'appelait salle Jacques Capellan. Après, sur la période où moi j'étais à la brigade criminelle...
2007-2013
Non, j'étais à la brigade criminelle.
Vous dirigez le
83-88. Oui. Donc, je me souviens des meurtres de personnes âgées dans le 18e. Là, on en avait régulièrement. Et c'était horrible parce que on patinait, on n'y arrivait pas jusqu'au moment. Et c'était, il n'y avait pas encore de fichiers automatisés. Donc, il y avait des comparaisons qui étaient faites à l'épiscope par des inspecteurs à l'IJ. C'était un truc, c'était artisanal. Et puis,
Thierry Paulin.
Il y avait aussi cette période d'attentats. Parce qu'on l'oublie, mais dans cette période de 85-88, il y en avait en permanence des attentats. Il y avait Action Directe dans ces différentes branches. Ouais. Il y avait 1986, le comité de soutien aux prisonniers politiques d'Arabes, etc., le CSPPA.
L'assassinat de Georges Besse.
Georges Abdallah vient de sortir de prison.
Georges Besse, les tentatives d'assassinat contre l'inspecteur général, l'ingénieur général, le contrôleur général, pardon, des armées, Blandin, plus, évidemment, ce qui nous a tous marqué, l'attentat qui n'a pas visé le quai des Orfèvres parce qu'il y avait trop de mesures de sécurité, mais qui a visé le quai de Gèvres où on a perdu tous. Marcel Badevent, qui était chef inspecteur divisionnaire à la brigade de répression du banditisme. Et là, je me souviens très bien puisque j'étais dans mon bureau, tout jeune commissaire à la crime, le directeur de l'époque, Touraine, passe pour chercher le chef de la brigade criminelle. Il tombe sur moi et il me dit, il y a un attentat quai de Gèvres, vous y allez, peut-être que c'est une explosion de gaz. Enfin, on était loin d'imaginer qu'on ait eu un attentat. Et moi, pour la première fois de ma vie d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais on voyait des attentats régulièrement. C'était des bombes qui étaient posées devant les façades d'immeubles. Donc, il y avait un cratère, il y avait des destructions, il y avait des fenêtres et des vitres qui tombaient. Et là, c'était une bombe dans un bâtiment. Mmh. Voilà.
C'était Max Frérot. Max Action Frérot, directe.
Ouais. Alors, quelques années plus tard, évidemment, le terrorisme du GIA islamique, du GIA algérien en 95, évidemment, le RERB, Station Saint-Michel, 8 morts, une centaine de blessés, des souvenirs que j'imagine pour vous sont encore très très
Pour faire
très
un lien avec BFM, Descartes, qui est celui qui a tenté de tirer dans le hall de BFM dans vos anciens locaux, et où il y a eu pour la première fois, presque une chasse à l'homme en direct, puisque vous suiviez, évidemment, étant impliqué, vous suiviez la chasse à l'homme, et nous, on a réussi, avec un travail remarquable de la criminelle, de la BRI, à le retrouver.
On a donné avec Jean-Baptiste Boursier, à 22h30, le nom d'Abdelhakim Descartes, confirmé par vous et le préfet Cadeau, à 2h du matin.
Non, c'était pas le préfet Cadeau.
C'était le préfet
Boucaud.
Boucaud, ça se ressemble. Alors, moi, ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est qu'il y a un ton. Il y a un ton, alors on retrouve tous les anciens, Lucien Léger qui a tué le petit Luc Taron en 64 dans le Bois de Verrières. C'est pour ça que le Bois de Verrières a parfois aussi cette mauvaise réputation. Pour tous ceux qui veulent y faire du sport, on dit c'est un endroit. Donc il y a Jean-Marie Bastien Thierry, l'attentat contre le général de Gaulle, le petit Clamart. Et puis il y a Pierrot Le Fou, alors moi j'ignorais qu'il s'appelait. Même les légendes, il y a un ton dans la rédaction du bouquin, même les légendes sont écrites par des flics. Ça se voit.
C'est-à-dire alors,
Pierre Loufou, il s'appelle Pierre Loutrel. Loutrel, moi je savais pas. Bon, alors la légende, c'est Pierre Loutrel, alias Pierrot la valise, Pierrot la voiture ou Pierrot le fou. Il aime l'argent, les femmes, les belles voitures et les courses cyclistes. Ça, c'est du ton de policier. C'est pas du journaliste, c'est du ton de policier, ça. Tout est résumé en un seul personne.
C'était le banc d'extraction avant qu'on retrouvera dans l'enlèvement de Ben Barka, 20 ans plus tard, bouche sèche, Atia.
Bouche sèche, les noms de ces types.
Pierrot Le Fou était mort parce que, si ma mémoire est bonne, Charlie, il est mort en se tirant une balle accidentellement.
Oui, oui, à la sortie d'un braquage, du braquage d'une bijouterie, il monte dans la voiture et s'enfuit rapidement et en rangeant l'arme à sa ceinture, le coup de feu part et il en mourra. Mais pendant des années, on n'a pas su qu'il était mort. Ouais. Et il a fallu des révélations faites par une amie pour qu'on le découvre dans une île.
L'île de Gilliers sur la Seine. Ça aussi, on l'apprend dans le livre. Il y a tout un tas de choses dans ce bouquin.
Et alors,
on n'avait jamais lu nulle part.
Il y a plein de photos, il y a des visages en pagaille. Il y a les vôtres aussi. Alors ça date pas d'aujourd'hui, hein, si je puis me permettre, quand c'est Charles Diaz, c'était quoi ces photos-là?
On était tous pris voyous.
Quand vous arriviez au 36.
Voyous et flics sur le fauteuil de Bertillon, de face, de profil, nos paluches, nos empreintes.
Et on était signalisés comme au temps de Bertillon.
Et à ce moment-là, vous faisiez partie de la famille, du 36.
Exactement. Et on vous donnait votre arme. Alors moi, la première fois que je suis rentré avec mon arme dans une banque pour tirer de l'argent, ça fait très drôle.
Vous n'êtes pas sympa, ça ils montrent les photos. Ouais.
Oui, bien sûr. Mais non, mais parce que, pourquoi? Parce que, bon, déjà, ça renvoie au mythe du 36, ça c'est secret.
C'est vous, ça
à tout.
C'est
vous. Oui, mais oui, ce sont nos deux invités, Dominique. Et on rentre, je le disais, on rentrait ainsi dans la famille. C'est ce que vous racontez aussi dans ce livre. Il n'y a pas que des histoires, des drames aussi, parce qu'on le dit avec le sourire, mais c'est une histoire de famille, le 36.
Quand on parlait du 36, on ne parlait pas du 36, on disait la maison. La maison, ce n'était pas le domicile. Et nos épouses comprenaient très vite que la maison, le 36, allait passer avant la maison familiale.
On a du mal à le quitter, le 36, Christian Flèche, quand on y a passé autant de
temps. Oui, c'est sûr, parce que c'est très intense, et c'est l'intérêt de leur livre, c'est d'arriver à faire ressentir à la fois les liens qu'il peut y avoir avec des bâtiments qui étaient complètement inadaptés au fur et à mesure, qui n'étaient pas du tout aux normes de sécurité d'ailleurs, ni de la partie police, ni la partie justice. On respectait, à mon avis, aucune règle en matière d'incendie, en matière d'accessibilité. Et puis, il y a l'ambiance qu'il y a par cette proximité, ce que vous mettez dans votre bouquin, et puis l'ambiance particulière des groupes de la PJ. Ça, c'est quelque chose qui est très fort en PJ, c'est l'ambiance du groupe avec un chef et puis une équipe qui travaille de concert sur un ou des dossiers.
La criminelle, la BRI, sur place, dès qu'il y avait une affaire, quand ils étaient saisis, un enlèvement, tout de suite, tout le monde était mobilisé et on passait notre vie.
La BRI qui est toujours au 36.
Qui est
la
toujours, c'est le seul service.
Un, ou sinon le seul service, toujours au 36. Qu'elles aient fait, parce que, en 2017, quasiment tout le monde a déménagé dans un autre 36 d'ailleurs, qui n'existait pas dans la rue, mais on l'a créé spécialement.
Ouais.
36 rue du Bastion, à l'autre bout de Paris. Dans les nouveaux locaux, à côté du nouveau palais de justice de Paris. C'est ça aussi, le mythe du 36.
Ouais, comment ça s'est décidé? En fait, il y avait, bon, comme je viens de l'évoquer, on n'était pas du tout aux normes. Donc, il y avait une nécessité de respecter les normes d'incendie, de respecter les normes d'accessibilité, puisque il n'y avait aucun ascenseur dans ce bâtiment. Donc, ça veut dire que les personnes âgées, ça veut dire que quand une femme était enceinte, il fallait trouver des subterfuges pour qu'elle puisse continuer à arriver à son bureau en passant par le palais de justice avec une porte dérobée pour arriver dans la partie police. C'est compliqué. Donc, en 2007, le ministre de l'Intérieur est devenu président de la République. Le directeur de la police judiciaire, mon prédécesseur, Pechnard, est devenu directeur général de la police. Le directeur général de la police est devenu préfet de police. Donc, il y avait une conjonction pour que, tout le monde étant convaincu, on lance le dossier d'un nouveau bâtiment pour la police judiciaire parisienne qui a pris énormément d'argent sur les bâtiments, sur le budget du ministère de l'Intérieur. Donc, c'était un vrai sujet qui a duré une dizaine d'années avant qu'on en arrive. Et entre les deux, entre 2007 et 2017, il y a eu les attentats de 2015. Mmh. Et la BRI, qui était prévue pour être à une cinquantaine dans des locaux futurs, a doublé ses effectifs. Et là, ils ne rentraient plus dans les locaux qui étaient prévus. Après, il y avait une idée de les laisser au centre de Paris. C'est comme ça qu'ils sont les seuls à être restés dans les bâtiments qui ont été rénovés. La partie de la BRI du 36 a été rénové de façon remarquable et ils vivent très très bien dans des locaux qui sont superbes.
Je vois Dominique qui écrit tout ce que vous dites. Je ne sais pas si c'est ce que vous dites, Dominique.
Non, je prenais donc.
Et cette BRI a fait des petits à travers la France. Il ne se passe pas une semaine sans que vous entendiez la BRI avant-hier, ou hier. À Nice, je crois, la BRI avait Guigoret interpellé l'auteur de l'assassinat.
Cet homme qui a tué de plusieurs balles dans 200 francs une jeune femme
et en
au volant de sa voiture à Nice.
Quand François Lemoine crée ses services, il considère que ces gens passent trop de temps devant les machines à écrire, passent plus de temps devant les machines à écrire que sur le terrain, et créent ce service avec l'idée, pas de papier. Pas, ouais. Ils font du terrain, ils arrêtent en flagrant délit. Voilà. Et vous savez, ce dont souffrent nos collègues à l'heure actuelle, c'est qu'ils passent plus de temps devant leurs ordinateurs que sur le terrain.
Et vous voyez, là, il y a du lourd autour de la table. Là, il y a vraiment du lourd. Et quand je vous vois, j'ai l'impression que la police, c'est un peu comme le rugby. Vous vous retrouvez tous, alors je notais quelques noms, alors... Cancès, Dias, Flèche, Mancini, Fiamingui, Pechnard, j'oublie qui encore, allez-y.
Terry,
Roger.
Terry.
Broussard.
Broussard, ouais.
Broussard.
Martin Monteil.
Ouais, Martine ouais. Monteil. Et en fait,
ah, c'est l'amical des anciens, là, aujourd'hui.
Ouais, ils se retrouvent tous. Non, non, mais ils se retrouvent tous. Alors que nous, journalistes, il y a une solidarité chez nous dans les rédactions. Ouais. On est des potes. On travaille le jour, la nuit, le week-end, le 1er mai, Noël, jour de l'an. On n'a plus tellement de famille, pour ceux qui ont réussi à en garder une. Ou... Voilà, on a finalement le même mode de fonctionnement que vous. Mais on ne fonctionne pas comme vous. C'est-à-dire que, après, bon, quand on parle dans des rédactions différentes, on ne se revoit plus comme vous, les anciens de la police, les flics. Vous êtes une équipe, quoi.
Bien sûr. J'ai travaillé avec Charlie et Claude Jean a Diaz été mon chef.
Et Claude Cancès. Merci, on est obligé de s'arrêter là, mais on peut poursuivre hors antenne, hein, pourquoi pas. Merci merci infiniment, merci à tous
merci
les trois
vous.
De nous avoir rendu visite dans l'affaire suivante. Merci mon homme.
Merci François.
L'histoire du 36 illustré, voilà. On remontre ce livre que vous
j'aime
pouvez
trouver
dans les librairies. François. Passionnant. Merci Dom. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Dans quelques instants, c'est Anne Seften que vous retrouvez pour l'après-midi info, l'actualité est dense, elle est chargée. C'est sur BFM TV que ça se passe. Bonne journée à tous.
BFM Radio.